Lizzie présente Ne t'enfuis plus de Harlan Coben, lu par Damien Ferrette. L'homme propose, Dieu dispose. Vous êtes formidable. Chapitre 1. Assis sur un banc de Central Park, à Strawberry Fields plus précisément, Simon sentit son cœur exploser. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver, au début tout au moins. Pas avant que les coups ne se mettent à pleuvoir et que deux touristes finlandaises, il fallait que ça tombe sur elle, ne se mettent à hurler tandis que neuf autres touristes venus des quatre coins du monde filmaient l'abominable scène avec leur smartphone. Mais on n'en était pas encore là. Il n'y avait pas de fraises à Strawberry Fields. Et cette partie paysagère du parc n'avait strictement rien d'un chant, ni au singulier, ni au pluriel. Elle devait son nom à la chanson éponyme des Beatles. Strawberry Fields forme un triangle à la hauteur de la 72e rue, dédiée à la mémoire de John Lennon, assassiné juste en face. Au centre du mémorial se trouve une mosaïque circulaire avec ce simple mot « Imagine ». Anéanti, Simon regardait sans ciller droit devant lui. Les touristes défilaient pour se faire prendre en photo avec le fameux symbole, photo de groupe, selfie, certains agenouillés sur les pierres incrustées, d'autres carrément allongés dessus. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, quelqu'un avait décoré le mot « imagine » avec des fleurs fraîches. Les pétales de rose formaient le signe de la paix, sans s'envoler. Les visiteurs, peut-être parce que c'était un lieu de mémoire, attendaient patiemment leur tour pour s'approcher de la mosaïque et prendre la photo convoitée qu'ils posteraient sur Snapchat ou Instagram, l'un de leurs réseaux sociaux préférés, avec une citation de John Lennon, les paroles d'une chanson des Beatles, et pourquoi pas celle où les gens vivent leur vie en paix. Simon portait un costume. Il n'avait pas pris la peine de desserrer sa cravate en sortant de son bureau du World Financial Center. En face de lui, assise près de la mosaïque, une... Comment on appelle ça maintenant ? Clocharde ? Vagabonde ? Mendiante ? Toxico ? Détraquée ? Jouait des chansons des Beatles pour gagner quelques pièces. La musicienne de rue, une appellation plus charitable sans doute, chantait d'une voix fêlée en s'accompagnant sur une guitare désaccordée que Penny Lane était dans ses oreilles et dans ses yeux. Curieux ou du moins drôle de souvenir. Simon passait souvent devant cette mosaïque quand les enfants étaient petits. À une époque où Paige avait peut-être 9 ans, Sam 6 et Anya 3. Ils traversaient Strawberry Fields pour se rendre depuis leur immeuble dans la 67e rue à la statue d'Alice au Pays des Merveilles près du bassin au petit bateau dans la partie est. Contrairement à tant d'autres statues dans le monde, les enfants avaient le droit de grimper sur les silhouettes en bronze d'Alice, du chapelier fou, du lapin blanc... et d'une ribambelle de champignons géants à l'aspect douteux. Sam et Anya adoraient escalader ces statues, même si à un moment ou un autre, Sam enfonçait les doigts dans les narines d'Alice en criant « Papa, regarde, je suis en train de lui ôter les crottes de nez !» Ingrid, la mère de Sam, soupirait invariablement en marmonnant « Ah, ces garçons !» Mais Paige, leur aînée, avait été plus sage, même en ce temps-là. Elle s'installait sur un banc avec un livre de coloriage et des crayons intacts. Elle n'aimait pas qu'un crayon casse ou perde son capuchon. Et, ironiquement, ne débordait jamais des contours du dessin. Plus tard, à l'âge de 15 ou 16 ans, elle venait ici, comme son père en ce moment même, pour écrire des histoires et des paroles de chansons sur un carnet qu'il lui avait acheté dans un papyrus sur Columbus Avenue. Paige ne choisissait jamais un banc au hasard. Environ 9000 bancs de Central Park avaient été adoptés, moyennant une importante contribution financière. Chaque banc portait une plaque personnalisée comme celui que Simon occupait maintenant. On y lisait « À la mémoire de Carl et Corky ». D'autres, ceux qui avaient la préférence de Paige, racontaient une petite histoire. Pour C et B qui ont survécu à l'Holocauste et refait leur vie dans cette ville. À ma douce Anne, je t'aime. Je t'adore, je te chéris. Veux-tu m'épouser ? Notre histoire d'amour est née À cet endroit, le 12 avril 1942, le banc favori de Paige, sur lequel elle restait assise des heures avec son carnet, était-ce prémonitoire, évoquait un drame mystérieux. La belle Meryl, 19 ans, tu méritais tellement mieux, et tu es morte si jeune. J'aurais fait n'importe quoi pour te sauver. Paige passait d'un banc à l'autre, lisait les inscriptions, s'en inspirait pour rédiger la trame de ses histoires. Désireux de renforcer leur lien, Simon avait essayé de l'imiter, mais il n'avait pas l'imagination de sa fille. Il venait donc là pour lire son journal ou tripoter son téléphone, consultant l'état des marchés ou la page financière pendant que Paige noircissait fébrilement son carnet. Qu'était-il arrivé à ces vieux carnets? Où se trouvait-il maintenant? Par chance, Penny Lane prit fin. Et la chanteuse mendiante enchaîna directement sur « All you need is love ». Un jeune couple était assis sur un banc voisin. Le garçon murmura, théâtral, « Si je lui donnais de l'argent pour la faire taire ». Et la fille ricana, « C'est John Lennon qu'on assassine une seconde fois ». Certains passants jetaient des pièces dans l'étui de la guitare, mais la plupart restaient à distance ou s'écartaient en grimaçant, comme s'ils avaient capté des effluves peu ragoûtants. Simon lui écoutait de toutes ses oreilles, espérant trouver un semblant de beauté dans la mélodie, la chanson, les paroles, l'interprétation. C'est à peine s'il remarquait les touristes, leurs guides, l'homme sans chemise, hélas, qui vendait des bouteilles d'eau à $1, ou le gringalet avec un bouc qui racontait des blagues pour $1. Promo du jour, 6 blagues pour $5. Il ne vit pas non plus la vieille asiatique qui brûlait de l'encens en guise de vague hommage à John Lennon, ni les joggers, ni les gens sortis promener leurs chiens, ni ceux qui se faisaient bronzer sur la pelouse. Mais il n'y avait aucune beauté dans la musique. Aucune. Simon fixait des yeux la mendiante qui massacrait l'héritage de John Lennon. Les cheveux emmêlés, les joues creuses, elle était maigre comme un clou, sale, en haillons, cassée, perdue, sans toit ni loi. C'était aussi sa fille, Paige. Simon ne l'avait pas revue depuis 6 mois, depuis qu'elle avait commis l'impardonnable. Pour Ingrid, ça avait été le coup de grâce. « Laisse-la, maintenant !» lui avait-elle dit après que Paige se fût volatilisée dans la nature. C'est-à-dire, ce à quoi Ingrid, mère exemplaire, pédiatre, ayant voué sa vie à soigner des enfants en difficulté, avait répondu « Je ne veux plus la voir ici. Tu n'es pas sérieuse. Simon, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieuse. » Pendant des mois, à l'insu d'Ingrid, il avait cherché Paige. Certaines de ses tentatives avaient été méthodiques, comme lorsqu'il avait engagé un détective privé. Mais la plupart du temps, il avait tâtonné dans le noir, sillonnant des quartiers malfamés pour montrer sa photo à des drogués et autres personnages peu recommandables. Sans résultat. Simon s'était demandé si Paige, qui venait de fêter ses 21 ans, comment, avec des amis, un gâteau, de la coke, se rappelait-elle seulement quel jour c'était. N'avait pas quitté Manhattan pour retourner au campus où tout avait commencé. À 2 reprises, profitant d'un week-end où Ingrid était de garde et ne risquait pas de poser trop de questions, il s'était rendu là-bas et avait passé la nuit dans un petit hôtel voisin. Il avait arpenté la cour centrale, se rappelant l'enthousiasme avec lequel toute la famille avait accompagné Paige pour l'aider à s'installer dans sa nouvelle vie d'étudiante. Ingrid et lui voyaient les choses d'un œil confiant. Tous ces espaces verts, ce parc boisé pour leur fille qui avait grandi dans la grosse pomme. Mais leur optimisme avait vite été douché. Quelque part, sans même qu'il ose se l'avouer, Simon aurait voulu abandonner ses recherches. La vie était, sinon meilleure, du moins plus facile depuis que Paige était partie. Sam, qui avait terminé le lycée au printemps, mentionnait rarement sa grande sœur. Il avait été absorbé par son diplôme, ses copains, les fêtes. Et aujourd'hui, son unique obsession était son entrée en première année à Amherst College. Anya, Simon ne savait pas trop ce qu'elle pensait. Elle ne lui parlait pas de Paige ni de grand-chose d'autre. Ses réponses à ses tentatives de conversation se limitaient généralement à 1 ou 2 mots, voire une syllabe, genre « ça va, ouais » ou « ok ».